Bien, nous allons reprendre, si vous voulez bien. Et nous allons écouter aujourd'hui Raymond de Couder. Alors, Raymond de Couder est à l'Université Paris 7 Denis Diderot, hein, où elle est chargée de la coordination de l'école doctorale de littérature française. Elle a fait, il y a quelques années, enfin, il y a une dizaine d'années, une thèse intitulée « Du féminin dans la recherche du temps perdu ». Et cette thèse a été publiée sous le titre « Proust au féminin » en 1998, après avoir reçu un prix important, le prix, je ne sais plus très bien comment il s'appelle, organisé par le monde de l'éducation, le prix de la recherche universitaire, quelque chose comme ça, le prix de la recherche universitaire, et du coup la thèse a été publiée chez Grasset. Et elle est l'auteur plus récemment d'un ouvrage collectif qui est la publication des actes d'un colloque intitulé « Marcel Proust, surprise de la recherche ». Cela a été publié en 2004, ainsi que d'un certain nombre d'articles dans les publications proustiennes habituel dont vous avez déjà entendu parler, tel que le bulletin Marcel Proust ou le bulletin d'information proustienne. Ces publications importantes pour les proustiens. Elle nous a donné comme titre aujourd'hui « Fables animales proustiennes ». Et je crois qu'il y a un papier qui a été distribué avec les citations qu'elle utilisera.
Merci, merci beaucoup de votre invitation. Alors, mon titre, c'est un peu réduit. Vous avez peut-être vu un S à fable. En fait, je ne parlerai que d'une fable, une fable de Proust, et en l'occurrence, la lettre au chien qu'il écrit au chien de Reynaldo Hahn en 1911. C'est une lettre. Cette lettre au chien est unique en son genre, je crois, hein, dans tout ce qu'a écrit Proust. C'est un apax, donc, et qui est daté peu après, le 3 novembre 1911. Alors, je vous lis cette lettre que vous avez dans l'exemplier, dans la citation 1. Mon cher Zadig, je t'aime beaucoup parce que tu as beaucoup de chasse-grain et d'amour par même que moi. Et tu ne pouvais pas trouver mieux dans le monde entier, mais je ne suis pas jaloux qu'il ait plus avec toi parce que c'est juste et que tu es plus malheureux et plus aimant. Voici comment je le sais, mon gentil chouin. Quand j'étais petit et que j'avais du chagrin pour quitter maman ou pour partir en voyage ou pour me coucher ou pour une jeune fille que j'aimais, j'étais plus malheureux qu'aujourd'hui. D'abord parce que, comme toi, je n'étais pas libre, comme je le suis aujourd'hui, d'aller distraire mon chagrin et que je me renfermais avec lui. Mais aussi parce que j'étais attachée aussi dans ma tête, où je n'avais aucune idée, aucun souvenir de lecture, aucun projet où m'échapper. Et tu es ainsi, Zadig. Tu n'as jamais fait lecture et tu n'as pas idée, et tu dois être bien malheureux quand tu es triste. Mais sache, mon bon petit Zadig, ceci, qu'une espèce de chouin que je suis dans ton genre te dit et dit, car il a été homme et toi pas. Cette intelligence ne nous sert qu'à remplacer ces impressions qui te font aimer et souffrir par des facsimilés affaiblis, qui font moins de chagrin et donnent moins de tendresse. Dans les rares moments où je retrouve toute ma tendresse, toute ma souffrance, c'est que je n'ai plus senti d'après ces fausses idées, mais d'après quelque chose qui est semblable en toi et en moi, mon petit chouin. Et cela me semble tellement supérieur au reste qu'il n'y a que quand je suis redevenu chien, un pauvre Zadig comme toi, que je me mets à écrire. Et il n'y a que les livres écrits ainsi que j'aime. Celui qui porte ton nom, mon vieux Zadig, n'est pas du tout comme cela. C'est une petite dispute entre ton maître, qui est aussi le mien, et moi. Mais toi, tu n'auras pas de querelle avec lui, car tu ne penses pas. Cher Zadig, nous sommes vieux et souffrants tous deux, mais j'aimerais bien aller te faire souvent visite pour que tu me rapproches de ton petit maître au lieu de m'en séparer. Je t'embrasse de tout mon corps, de tout mon cœur, et vais envoyer à ton ami Reynaldo ta petite rançon, ton ami Bunched. Bunched, évidemment, c'est Proust. Alors, c'est à 39 ans que Proust écrit cette lettre à Reynaldo Hahn, qui en a 36. Elle ne date pas de la période de leur rencontre, mais de celle de l'amitié, une amitié installée depuis 17 ans. Elle date aussi de la période du début de la recherche, commencée 4 ans plus tôt, si l'on veut bien lui donner comme date de conception véritable le carnet de 1908 édité par Philippe Kolb. Les deux hommes se voient souvent, tous les jours, lorsque Reynaldo est à Paris. Ils s'écrivent, ils s'appellent, ils se rendent visite. Ils se soutiennent aussi dans leurs œuvres respectives. Ils se querellent sur d'autres plans désormais que celui de la passion amoureuse. En préalable au commentaire de la lettre au chien, je voudrais rappeler que Proust a donc entamé véritablement la recherche en 1908 sous la forme de ces fragments qu'on appelle « Contre Sainte-Beuve » développés en 1909, dont le texte commence par la phrase bien connue sur l'insuffisance de l'intelligence dans la vocation littéraire. Et je souligne ce nom de vocation, appel, sur la fécondité de l'irraisonné, du senti, abrité dans un objet sensation, et qu'il s'agit de délivrer en mobilisant non pas la fameuse réminiscence, mais sa voix royale, la sensation. Une sensation non pas involontaire, mais inopinée, qui survient dans un présent énigmatiquement relié au passé, où s'abolit le sentiment humain de l'origine, de la durée et de la chronologie. Voici donc le début de Contre Sainte-Beuve, c'est la citation 2. « Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de lui-même et la seule matière de l'art. Ce que l'intelligence nous rend sous le nom de passé n'est pas lui. » Fin de citation. Le souvenir, donc, n'est pour rien dans l'énigme du monde et seule la mystérieuse résurrection de la sensation ou, en termes laïques, son expérience, qui se produit sans crier gare, peut déclencher ou motiver l'écriture. Jacques Rivière, qui était un lecteur éclairé de Proust chez Gallimard, le jugeait, et c'est la citation 3, comme un des écrivains les moins inquiets de théorie, et chez qui le voltage des sensations fut toujours incommensurable avec ce qu'il est chez l'homme moyen, tout en prenant soin de préciser, je poursuis la citation, qu'éprouver, prenez à Proust toutes ses forces, sauf une, l'intelligence. Or, on l'a entendu, c'est très exactement d'intelligence et de sensation que traite la lettre à Zadig, la lettre au chien. Non pour opposer l'humain à l'animal, pour leur assigner respectivement l'une ou l'autre, et pas davantage pour réunir l'humain et l'animal dans la vision continuiste de la triplicité de l'âme aristotélicienne végétative, sensitive et intellective. L'intelligence et la sensation ne sont pas du tout pour Proust une affaire de dosage en fonction des espèces du vivant. Proust se présente à Zadig comme homme-chien et lui demande de transmettre son message à un homme qui est leur maître, à tous deux, et qui est musicien. À l'été 1911, il se passe quelque chose dans l'échange épistolaire et amical entre les deux amis qui pousse l'écrivain à rompre avec le jargon qu'il utilise généralement dans ses lettres. J'y reviendrai. Et à s'adresser à un autre destinataire fraternel, le chien du musicien. Cette adresse folle, l'adresse au chien, émane du monde des mots, mais revendique un accord d'égalité, d'identité, et même de mêmeté, d'une certaine façon. C'est en tant que chien que Proust veut relater une expérience dans laquelle le sujet traverse des états qui ne relèvent pas de la théorie, s'écarte de l'être raisonnable et raisonnant, s'arrime à une enfance et donc à un passé, mais qui revient submerger ce sujet au présent. Le processus ici n'est pas celui d'un devenir chien aux accents deleuziens, mais du retour à un ancien être chien, de son actualité, de son activité, toujours opératoire. Telle est la fable donc que Proust raconte à Zadig dans laquelle il m'a entraîné. Une des questions sera donc celle-ci, parler au chien ou parler chien? La lettre à Zadig tranche par son style sur les autres lettres du volume Gallimard qui les rassemble toutes ou presque et qui me sert ici de référence. C'est ce beau livre mais qui malheureusement n'est plus très accessible aujourd'hui. De 1894 à 1896, fin de la période amoureuse passionnelle, les lettres sont écrites dans une langue plutôt soutenue et correcte. Puis, après 1896, elles s'interrompent, c'est-à-dire qu'il y a toute une période où les lettres sont perdues. Et elles reprennent en 1904. Et à partir de là, et jusqu'en 1915, qui est la dernière qu'on connaisse, de Proust, elles témoignent d'un idiome commun aux deux hommes qui provient, comme on l'apprend, des habitudes de la fratrie de Reynaldo. J'ai été surprise de constater, en lisant une réponse de Proust à Madame Carlos Anne, la mère de Reynaldo, datée de janvier 1912, qu'elle était dans la confidence de ce que Proust appelle les « bininulseries » ou les « bunchteries ». L'écrivain désigne sous ces termes synonymes les jeux de langage habituels entre Reynaldo et lui. Madame Carlos Anne avait comparé dans une lettre antérieure son fils à un pigeon voyageur. Ce que Proust juge dans sa réponse, je cite, « très bunchnibuls », c'est-à-dire relevant de la complicité affectueuse et intellectuelle entre les deux amis. Reprenant la culture de la famille, Anne, les bininulseries de Proust, dont sont truffées ses lettres à partir de 1904, conduisent à penser que ces vocables bizarres sont comme à l'intersection des deux langues maternelles des deux hommes, de l'espagnol vénézuélien de Reynaldo et du français de Marcel, sans être pourtant redevables à aucune. Les bininulseries comportent un lexique et une syntaxe, bunchnidulse, qui constituent leur langue commune. Je reviendrai dans un instant sur ces bininulseries pour vous en donner un échantillon, mais pour en indiquer déjà le sémantisme, je dois faire une première digression sur un autre animal, le poney. Dans une lettre de mars 1896, c'est-à-dire de la période amoureuse, avant le trou dans la correspondance, et datant donc de cette période passionnelle, Proust écrivait à Reynaldo, citation 4, « Je vous avais apporté des petites choses de moi et le début du roman. Il s'agit en fait de Jean Santeuil, qui a été commencé par Proust pendant le séjour à Begmel avec Reynaldo en 1895, que Yitman lui-même, près de qui j'écrivais, a trouvé très poney. Vous m'aiderez à corriger ce qu'il serait trop poney. Je veux que vous y soyez tout le temps, mais comme un dieu déguisé qu'aucun mortel ne reconnaît. Sans cela, c'est sur tout le manuscrit, c'est sur tout le roman, pardon, que tu serais obligé de mettre déchir. » Fin de citation. Un roman trop poney. On voit que les significations de cet adjectif attribut assorti de l'adverbe qui marque l'excès ne manquent pas et ne sont pas sans incidence sur la morale dont il est question ici. Roman trop intime, trop passionnel, trop autobiographique, trop sensuel, trop homosexuel, comme on dirait aujourd'hui. Immoral, amoral, sans morale, etc. En tout cas, roman de l'excès et de l'exhibition impossible. Présent dans Jean Santeuil, le roman inachevé, donc qui constitue en somme le corps germinatif de la recherche, Reynaldo disparaît de celle-ci, en apparence. Dans Jean Santeuil, Reynaldo Anne est Henri de Réveillon, le personnage dont les initiales sont les siennes, inversées. Il est présent également dans le portrait du marquis de Poitiers, dans le personnage de Françoise, qui est l'amoureuse de Jean dans ce roman-là. Je ne connais pas d'enquête génétique ou sémiologique sur les traces de la présence de Reynaldo Anne dans la recherche. Son prénom n'y apparaît que deux fois, dans une même note rédigée par Proust en marge d'un passage sur les mots d'esprit de la duchesse de Guermantes. Je le cite, mais ce n'est pas dans l'exemplier parce que c'est très bref. Chose à ne pas oublier, Reynaldo chantant Hérodiade. Je ne me suis plus jamais rappelé ce Reynaldo qui est encadré dans un paysage de mer. On croirait voir ici Saint-Loup entrant par une porte-fenêtre dans la salle du restaurant de Balbec. Dans un article écrit en 1909 et 1914, qui n'a été publié qu'en 1923, Proust évoque, je cite, et ça n'est toujours pas dans l'exemplier parce que c'est très bref, un distique de Mallarmé où Reynaldo rime avec Gédo. Si Marie Miguet-Aulagnier, dans un article d'un recueil sur Sodome et Gomorre, a raison de référer l'ekphrasis du Gédo d'Hubert Robert dans l'épisode de la princesse de la fête chez la princesse de Guermantes secrètement à l'esthétique d'Elstir, il me semble qu'on peut lire aussi dans cette contemplation sur fond de métaphore érotique, l'inscription secrète également des initiales du musicien sous celle inversée d'Hubert Robert, le peintre du XVIIIe siècle. Ainsi, de même que Reynaldo est doublement dans le cryptogramme du Gédo, son nom est aussi en phonétique dans celui de Swann, autant dire dans le champ du texte. Ceci n'est une digression qu'en apparence. Proust et Anne s'écrivent entre 1894 et 1915 dans une langue cryptée, si l'on veut, mais que l'on qualifierait à tort d'enfantine, même s'il y a bien parfois du style bébé dans leurs échanges, des enfantillages et même de l'infantilisme. Je souligne dans ce langage, outre sa dimension secrète de code privé, son caractère silencieux, c'est-à-dire l'entente à demi-mot entre les deux amis, et le pan hors langage qu'il révèle, le babil mère-enfant, le baby talk, et aussi ce qui a à faire avec la sensation et que je vais développer. Dans leur langue à deux, Proust et Anne se plaisent aux interversions de syllabes, Esther, Thérèse, aux lectures à l'envers, non-lève pour Fénelon, aux métathèses, veuve pour Sainte-Beuve, et vice-versa, à l'emphase non pas verbale, mais vocale, sonore, phonique. Par exemple, vous expliquerez avec trois H ou quatre à la fin, aux mots inventés, aux altérations, de l'orthographe par des ajouts ou des modifications de lettres. Méchant devient moschant, gentil devient gentil. Le S et le H sont d'ailleurs, comme dans le javanais l'infixe ave, le phonème en plus, indice de la langue du clan. Proust s'amuse également à un cratilisme très personnel. Il écrit de Cabourg, ayant mal aux dents, ça n'est pas dans l'exemplier, « Je vous ai escrit et déchiré, expliquerai. Pouvez-vous me dire si Darcissac, c'est le nom du dentiste, est à Paris, car je souffre tellement des dents que je reviendrai peut-être pour le voir. D'ailleurs, je vais peut-être forcer par dents et dents de revenir. » On l'entend vraiment parler, les dents serrées. Et puis, il y a ce qu'Emmanuel Berle appelle dans sa préface aux lettres, dans ce livre, les diminutifs caressants, binibuls, ibuls, bushnibuls, etc. Ils connaissent, sous la plume de Proust, d'innombrables variations qui sont autant de noms chimériques composés comme des jokers à valeur variable entre le jeu gratuit et le signe suprême, fonctionnant comme des cartes à forte valeur qui permettent de gagner au jeu, c'est-à-dire de comprendre le sens. Ces broderies langagières, ces glossolalies où l'affect prime sur la signification, ces bininulseries puériles sont des mots, noms ou adjectifs attributs, à la limite du prononçable. Des bruits, des cris enfantins, des sons animaux. C'est-à-dire, sinon inhumains, au moins à la limite du langage humain articulé. On peut les organiser en séries, et je vous ai donné une petite série dans l'exemplier, c'est la citation 5, avec une consonne à l'initiale, bunnibuls, bininuls, birninuls ou buls, tout simplement, bunch, bunchniguls, bunniniguls, et même binenturbuls, funinel, juninel, gumbuls, grunscht, gunschnibels, minusnichant, munched, punched, tininuls, vinscht, wunschnibuls, wunsch. Il y en a même un qui est carrément presque imprononçable, qui est unlorschnilbuls. Bon. Ils sont parfois simplement amputés de la consonne initiale, irnuls, uninuls, etc., ou en appellation isolée, kormuls, kornuls. Et ils représentent aussi bien l'expéditeur que le destinataire. Diminutif, dit Emmanuel Berle, mais de quel nom, de quel mot? Ça n'est ni Nanno, Zanetto, qui était Rinaldo. Ça n'est pas non plus Marcel. Donc, de quel mot? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Marcel et Rinaldo n'ont jamais renoncé à cet habitat, à cet habitat partagé dans la langue, à cet ethos où l'on entend le sens s'arracher à son fond sonore pour se métamorphoser tout en jouant en une articulation langagière d'une extrême plasticité. Les critiques l'ont noté, les lettres de Proust à Rinaldo Hahn sont pudiques, peu bavardes sur leurs liens intimes, paradoxalement peu personnelles. C'est que l'intime entre eux s'est réfugié dans la grammaticalité, les bizarreries de syntaxe, ces surnoms affectueux et loufoques et pas tout à fait humains, dans des phonèmes assemblés en mots pour l'autre, le même que soi. Et je ne peux m'empêcher de citer la fin d'une lettre de 1910, c'est la citation 6. « Je t'envoie, ô mon maître, l'affection de ton enfant, de ton frère, de ton ami, de ton petit malade, adieu, mon vieux Rinaldo Marcel. » Proust, dispersé dans le miroir de son alter ego, son étoile fixe, comme dit Jean-Yves Tadié, l'appelle ailleurs au cours de cette année décisive de 1908, « Ma chère oreille, vous, Bunst, ma chère bouche, vous encore, Bunst, signé B. » comme Bunst. Mais pourquoi la lettre au chien et pourquoi écrire au chien ? Qui est et qu'est le chien entre eux ? Je proposerai deux voies de réponse, mais avant, je vais vous raconter la petite histoire de Zadig qui n'est pas une fable. Zadig est un vrai chien de la vraie vie de Reynaldo à qui Proust écrit une vraie lettre. À l'été 1911, le chanteur achète à Versailles à une bohémienne un basset noir à poils longs. De Cabourg, où il est parti inopinément, Proust écrit à son ami, citation 7, sans savoir si celui-ci est décoré, parce que Proust espérait que Reynaldo aurait la Légion d'honneur pendant le mois de juillet. Et s'il a choisi le petit chouan ? Tu sais que je tiens essentiellement à te donner aussi l'autre et te prie me dire ce que je te dois pour les deux. Si par hasard ce mot te suivait dans ce pays si gentil, je compte sur toi pour ne pas montrer tous ces bininulseries qui, je t'assure, ne pourraient que nous donner ridicule même auprès des plus bienveillants. Les deux chiens restent une énigme. Ce qui est sûr, c'est qu'offrir le chien est une bininulserie et que le chien appartient au monde des bininulseries comme les bininulseries au monde chien. Proust veut connaître le prix de Zadig. Pour le rembourser à son ami, toujours de Cabourg, un peu plus tard, il revient sur la dette. Citation 8. « Quant à ton petit chouan, je le considère comme inexistant tant que tu ne m'en as pas dit le prix et que je ne l'ai pas acheté. » Dans sa lettre à Zadig, il mentionne de nouveau sa petite rançon. Proust aimait, certes, faire des cadeaux à ses amis, mais le chien, ici, tourne à la dette. Dette de Proust à Anne ou de Anne à Proust ? Le conflit exprimé dans la lettre au chien, qu'on va voir maintenant, éclaire cette insistance et met en évidence, je crois, la dette réciproque entre Reynaldo et Proust, dont on sait combien la rencontre a été déterminante pour l'un et l'autre, et peut-être plus pour celui-ci que pour celui-là. J'ai annoncé deux voies d'approche dans la lettre au chien, écrite, comme on l'a compris, après une petite dispute. Première voie, Proust écrit au chien parce qu'il ne peut plus parler à l'homme avec qui la communication est rompue. La lettre est une fausse lettre, et Zadig est un trope dans lequel se mire Proust. Comme l'écrit Roger Grenier dans Les larmes d'Ulysse, écrivant au chien, Proust se fait définitivement homme et justifie l'abîme entre l'homme et l'animal. Zadig ne répond pas. Deuxième voie, Proust écrit au chien parce qu'il est lui-même chien, pour dire autre chose que ce que l'humain dit avec des mots, et, c'est mon hypothèse, pour dire aux musiciens quelque chose de l'écrivain, pour dire à la musique quelque chose de la littérature, pour dire quelque chose et de la musique et de la littérature. Ce faisant, Proust cherche à atteindre un autre Reynaldo. Il est, à l'instar du chien du poème de Rilke, ni exclu ni inclus, mais ailleurs, dans l'ouvert, comme l'affirme le poète de la 8e élégie de Duino. Le style de la lettre à Zadig est aussi très sensiblement différent des autres lettres du volume en ce qu'il est dédoublé. Il y a le style Reynaldo, au début, jusqu'à quand j'étais petit, tout petit peu, beau scout de chagrin, je ne suis pas jaloux qu'il est plus avec toi qu'avec moi, etc. Et le style Proust, à partir de quand j'étais petit. Et il est remarquable aussi que Proust y conserve le mot de chouan, qui est celui qu'il utilise pour parler de Reynaldo à Zadig, et de Zadig à Reynaldo. Et il est aussi un rappel du Begmel de Bretagne par son assonance avec chouan. Le ton en est plutôt cérémonieux de cette lettre, la rédaction soignée, au regard de celle fantaisiste en usage sous la plume de Proust d'habitude. Le vocabulaire châtié est bien orthographié comparé à celui facétieux des lettres habituelles. Même s'il y a quelques rappels des bininulseries, tu n'as jamais fait lecture et tu n'as pas idée. « Je te dis et dis », etc. Ici, Proust ne potine plus et ne plaisante plus, et il se pourrait que la lettre à Zadig soit la plus sérieuse de tout le volume. Je vous invite à la reprendre sur l'exemplier. Son contenu manifeste, comme on le dit du rêve, est d'affect, et c'est une lettre affectueuse. Proust, le Proust qu'on imagine, qui forme avec Zadig un couple aussi baroque et dépareillé que certains de ceux des fables de La Fontaine, appellent Zadig mon petit chouan, mon bon petit Zadig, mon vieux Zadig. Il se place d'abord sur le même terrain que Zadig, heureux et malheureux par même que moi, pour s'en détacher aussitôt en gratifiant Zadig d'une plus grande compétence à ressentir la souffrance et à aimer. Tu es plus malheureux et plus aimant. Mais c'est pour lui expliquer d'où il tient lui-même son savoir sur leur égalité devant l'amour et le malheur, sur leur identité de sentiment, sur leur équivalence. Disons pour le moment sur leur équivalence de vivant. Suit un raisonnement argumenté en deux paragraphes sur cette équivalence. Voici comment je le sais, que tu es plus malheureux et plus aimant, et c'est ici que le ton change. Proust établit d'abord la temporalité de cette équivalence. Être chien, être un animal domestique, c'est être enfant, quand j'étais petit. Parce que dans les deux états, le sujet est exposé au chagrin, sans moyens ni instruments pour s'en défendre. Et nous sommes ici dans une confusion des langues où ni l'enfant ni le chien, contrairement à l'adulte, ne peuvent accéder à l'idée qui fait aimer ou souffrir, aimer et souffrir. Parce que le sujet, enfant ou chien, n'a pas la liberté de distraire par quelque artifice le chagrin de la séparation, de la distance, de ce qu'on pourrait peut-être même appeler l'exil, dans son infini, le lieu, le corps et même l'espèce dont on est écarté. Ils n'ont d'autre solution, le chien et l'enfant, que de se renfermer avec leur chagrin, puisqu'étant petit ou étant chien, rien ne peut venir ouvrir une issue contre l'invasion du chagrin. Le chagrin du sujet assujetti à son objet s'appelle le malheur et une tristesse incommensurable qui occupe tout l'être, privé de passé, les souvenirs de lecture, de futur, aucun projet, et même de présent, aucune idée. Le chagrin, la tristesse, le malheur de l'enfant et du chien constituent son instant éternel, son présent intemporel, l'attache à cet état qui ne peut se définir que par des oxymores. Proust a déjà écrit Combray. Il a été chien, et de là tient son savoir sur Zadig et au-delà de Zadig, sur l'être chien. Dans le second paragraphe, Proust cesse ses confidences à Zadig, passe à la profession de foi et lui fait une leçon de morale ou une leçon d'esthétique, ce qui revient au même. « Sache ceci, qu'une espèce de petit chouan que je suis dans ton genre te dit et dit, car il a été homme et toi pas. » Les temps des verbes l'indiquent. Proust est chien et il a été homme. Le sujet qui suit, nous, cette intelligence ne nous sert qu'à, l'englobe pourtant dans l'espèce dénaturée qui, devenue intelligente, remplace ces impressions qui te font aimer et souffrir par des facsimilés affaiblis, qui font moins de chagrin et donnent moins de tendresse. L'intelligence humaine, dans sa fadeur, n'est autre que la capacité à se leurrer, à s'illusionner, à filtrer les impressions, à les parodier, à en diluer la force. On le voit, l'être chien n'est pas une vie antérieure, l'être enfant non plus, et il ne faut pas ranger Proust dans la catégorie des philosophes qui, sous prétexte que les animaux ne rient pas, ont conclu à leur tristesse. La question proustienne n'est pas là. La conclusion de l'écrivain, car c'est celle de l'écrivain, expose la théorie de l'écriture proustienne, motif de la petite dispute entre le maître et le chien, qu'est Proust. Je relis le deuxième paragraphe de la lettre. « Dans les rares moments où je retrouve toute ma tendresse, toute ma souffrance, c'est que je n'ai plus senti d'après ces fausses idées, mais d'après quelque chose qui est semblable en toi et en moi, mon petit chouan, et cela me semble tellement supérieur au reste qu'il n'y a que quand je suis redevenu chien, un pauvre Zadig comme toi, que je me mets à écrire, et il n'y a que les livres écrits ainsi que j'aime. » Le recours à Zadig, la lettre, l'adresse au chien, est certes utilisé par Proust comme une allégorie. Zadig s'évade difficilement du trope. Et je fais référence ici à la distinction que propose Élisabeth de Fontenay dans son prochain livre, Sans offenser le genre humain, qui va sortir en mars, entre les écrivains qui font parler les bêtes, les faux amis, qui les utilisent justement comme des tropes, et les vrais amis qui parlent des bêtes, c'est-à-dire qui essaient de s'en approcher. Proust n'échappe pas à cette forme d'enfermement dans l'espèce humaine qui permet d'allégoriser les bêtes et redouble la prison de Zadig, le vrai chien qui, après tout, n'a rien demandé. J'ignore quelle justification Reynaldo Hahn avait donnée au nom de Zadig, lui aussi fortement allégorique, mais dans une page de son journal expurgé et publié, il mentionne une promenade au Cap Brun au cours de laquelle il voit un petit chien marron qui joue sur la plage et se souvient de ce que maman disait de Zadig, que innocencia. Dans la lettre de Proust au chien, c'est en effet ce programme qui se déroule sous son nom, Zadig. Naïveté ironico-critique, sensation versus pensée, enfance éternelle, altérité radicale, familière étrangeté, regard de l'animal, nudité de l'être, etc. Mais à l'écart de ce zadig programmatique, ouvert à l'infini allégorique, c'est en donnant sa langue au chien, en écrivant un zadig, que l'écrivain expose son expérience de ces formes du sens que le langage est impuissant à ramener intact des profondeurs et que la musique, en revanche, atteint spontanément. La correspondance de Proust avec le chanteur, compositeur et musicien Reynaldo Hahn est inséparable de la vaste question du style de Proust, de son rapport aux mots, de sa théorie de l'écriture et de la création littéraire, de son éthique d'écrivain et de son esthétique, mais aussi de sa passion pour la musique, de sa définition du continent musical et sonore. Les lettres des mois qui précèdent la lettre à Zadig ne témoignent d'aucune dispute caractérisée. En mai 1911, Reynaldo a perdu sa sœur aînée et Proust dit repenser au fils de celle-ci, Edward Seligman, sourd et muet, mort quelques années plus tôt. Citation 9. « Depuis quelques jours, je ne cessais de penser à votre petit-neveu, le sourd et muet, à qui je pense souvent, dont je rêve souvent, un des seuls êtres pour qui je ne puisse croire que l'existence est finie et qu'il n'a pas ailleurs une compensation. » En juin, Proust est malade, ni plus ni moins que d'habitude. En juillet, il part inopinément à Cabourg et se plaint de violentes crises d'asthme. En août, il espère que Reynaldo aura la Légion d'honneur. Le musicien fait l'acquisition du chien et il envoie à Proust une préface qu'il a écrite pour le chant théâtral de Jacques Isnardon. Proust le remercie de sa petite préface, c'est la citation 10, où il y a une page ou deux, pas mal, mais rien d'inouï. Mais ce que vous dites à la fin sur le chant est ce que je connais de plus beau dans aucun écrit sur l'art. Une note de Philippe Kolb dans le volume Gallimard cite la préface dans laquelle le chanteur affirme, citation 11, « Décourageons, décourageons, c'est un devoir de décourager tous ceux dont la bruyante nullité encombre un art que nous chérissons ardemment et qui est des plus humains. Humains, puisqu'il s'inspire de tout, procède de tout, peut et doit traduire ses émotions recelées à un pouvoir illimité d'incantation. » Ce même été, Proust fait dactylographier du côté de chez Swann et écrit à Reynaldo Hahn, citation 12, « Je ne peux pas dire que je pense souvent à toi, car tu es installé dans mon âme comme une de ces couches superposées, et je ne peux pas regarder du dedans au dehors, ni recevoir une impression du dehors au dedans, sans que cela ne traverse mon binschnibuls intérieur, devenu translucide et poreux. » Et il conclut « Adieu, mon petit chouan, Bunst. » Il faut se résigner sans doute à ne pas connaître le motif exact qui a valu à Zadig d'être le destinataire d'une lettre humaine. Les thèmes ténus que je souligne pour le cerner relèvent d'ordres différents. La musique, l'écriture, l'angoisse de la mort, le silence de l'être. Proust et Reynaldo ont en réalité un très ancien différent à propos du rôle de l'intelligence dans la création artistique. Il s'agit même d'une véritable controverse à laquelle Proust donne toute son attention sur les poétiques de la création, qu'il s'agisse aussi bien de littérature, de peinture ou de musique. Dès la troisième lettre à Reynaldo, c'est-à-dire pendant la période passionnelle, en 1895, Proust identifie sa propre condition à celle d'un poney, dont le chanteur qui habite rue du Cirque est le petit maître. « My little master », dit-il. Mais il trouve dans le surnom que son ami lui donne, Marcel le poney, que j'ai cité au début, l'occasion d'une mise au point qui recèle déjà l'origine de la discorde. Il compare l'appellation Marcel le poney à Jacques l'éventreur ou Louis le hutin. Citation 13, « N'oubliez pas que ce n'est pas un surnom et que je suis, Reynaldo, en toute vérité, votre poney, Marcel. » La position « le poney » n'est pas une métaphore dans laquelle Marcel serait identique à un poney ou comme un poney, mais une vérité dans laquelle son identité est en jeu, dans laquelle il est un poney et non pas un trope à son tour. Aussitôt après ce rappel à l'ordre des mots et des bêtes, le post-scriptum de la lettre évoque une petite divergence entre les deux amis au sujet de l'appréciation de Lohengrin de Wagner, que Proust aimait beaucoup, alors que Hahn le jugeait, lui, avec sévérité. Quelques mois plus tard, Proust écrit à son ami, citation 14, « Votre poney vient de jouer au piano deux fois le cimetière de campagne, c'est une mélodie de Reynaldo Hahn, et au charme rural s'ajoutent des choses difficiles à nommer dans la langue des poneys et des hommes. L'animal pianiste, sensitif et sensible, recueille des émotions sans mots dans aucune langue et remarque son incompétence de petite bête qui ne vous doit que sa tête rude à caresser, un regard sincère et la publicité éclatante d'une confiante fraternité, encore ce mot. Mais cette bêtise, c'est-à-dire cet être bête, si elle n'est pas une feinte, évolue très rapidement vers une conception de la musique et de la création artistique d'une étonnante fermeté et précocité, et sur laquelle Proust n'a pas beaucoup varié. C'est bien la controverse entre les poétiques musicales respectives de l'écrivain et du musicien qui se fait jour dans ses jeux épistolaires. Emmanuel Berle, dans sa préface au volume, souligne d'ailleurs avec insistance la place du débat sur la musique dans ses lettres. Débat qui n'est pas sans acidité parfois, ni taquinerie toujours. En 1911, faisant assaut de critique et d'auto-ironie, Proust se moque ouvertement de Reynaldo. Citation 15. « J'enstis, je vais vous agacer horriblement en parlant musique et en vous disant que j'ai entendu hier au théâtrophone un acte des maîtres chanteurs de Wagner, que déteste le musicien, et ce soir tout Péléas de Debussy, qu'il n'aime pas davantage. Or, je sais combien je me trompe dans tous les arts, mais enfin, comme Bunch ne me punira pas, j'ai eu une expression extrêmement agréable. Il est vrai, extrêmement agréable. Il est vrai que comme les étrangers ne sont pas choqués de m'alarmer parce qu'ils ne savent pas le français, des hérésies musicales peuvent vous crisper, passent pour moi inaperçues dans le théâtrophone où à un moment je trouvais la rumeur agréable quand je me suis aperçue que c'était l'entracte. Et pour finir, Proust s'excuse de sa transcendantale incompétence. La discorde entre les poétiques musicales des deux amis est non pas en filigrane dans la lettre à Zadig, mais plutôt portée à son point d'incandescence. Rappelons que pour Proust, la musique échappe à la mimésis comme à toute expression auquel se tient Reynaldo. Philippe Blais, dans un très bel article, rappelle le conflit avec cette citation de Proust qui date du début de la relation avec Reynaldo en 1895, mais dans une lettre que Proust écrit à Suzette Lemaire, la fille du peintre. Le point sur lequel nous sommes en désaccord, c'est que je crois que l'essence de la musique est de révéler en nous ce fond mystérieux et inexprimable à la littérature, et en général à tous les modes d'expression finis qui se servent de mots et par conséquent d'idées. Ce fond mystérieux de notre âme qui commence là où le fini et tous les arts qui ont pour objet le fini s'arrêtent, là où la science s'arrête aussi, et qu'on peut appeler le religieux. Reynaldo, au contraire, en considérant la musique comme une dépendance perpétuelle à la parole, la conçoit comme le mode d'expression de sentiments particuliers aux besoins de nuances de la conversation. Donc, au-delà de la musique comme expérience de l'être, je retiens un enjeu de la dispute qui ne manque pas tout de même de révéler la rivalité féroce dans laquelle l'écrivain se tient vis-à-vis du musicien sur le terrain même de ce dernier, la musique. Pour Proust, alors féru de la musique, de la philosophie esthétique de Schopenhauer, la musique est distincte du langage, que tout à la fois elle précède et accompagne. Mais elle est d'un autre ordre. Elle appartient paradoxalement au silence de l'humain, au silence du vivant, à l'énigme du vivant sans temps, silencieux, c'est-à-dire sans mots, et que le mot ne saurait pénétrer ni même entrevoir. Tandis que pour Reynaldo, la musique secondaire est, si j'ose, banalement inféodé au langage, ou en tout cas inséparable de lui. Proust, qui n'est pas encore écrivain en 1895, qui balbutie encore en littérature, qui retarde chaque jour le moment d'écrire, sait que c'est l'ineffable qu'il appelle du mot prosaïque d'inexprimable, qui sera le sol, l'antimonde en fait, auquel il arrachera la littérature. L'écriture, comme on disait dans ces années 70, d'où la morale était éclipsée. Étonnante certitude ou prescience, obscur savoir sur soi, qui se profile aussi bien en 1894 dans la transe mutique du jeune promeneur devant un petit rosier rouge du Bengale dans le jardin du château de Réveillon, où il se promène avec Reynaldo et parfois avec Lout, la chienne de Madame le maire, que plus tard dans la recherche avec la composition par l'écrivain d'une sonate et d'un septuor littéralement inaudibles, comme le souligne encore Philippe Blais, auquel je faisais allusion tout à l'heure, d'une sonate et d'un septuor sans audition possible, puisqu'il n'existe que silencieux. plus paradigmatique donc qu'allégorique, matrice paradoxale de la création littéraire. Avant de conclure, je voudrais m'arrêter un instant sur cette musique du silence qui habite Proust et l'animal, sur cet ailleurs que Proust jamais ne teinte de nostalgie, qui n'est pas nécessairement un exil, où se tient le vivant sans temps qui, pour un instant ou pour toujours, n'est plus ou n'est pas le vivant parlant. C'est à Lévi-Strauss, qui a été professeur ici, au Collège de France, de 1959 à 1982, à qui je dois aussi ma compréhension de la lettre de Proust à Zadig, et c'est Martin Rueff qui m'a rappelé ces pages. La musique, écrit Lévi-Strauss dans Le Cruel Cuit, est un langage intelligible et pourtant intraduisible. Les messages qu'elle élabore sont universels, mais seule une toute petite minorité est capable de les produire. Elle n'imite rien, et surtout pas la nature et ses bruits. Elle est radicalement du côté de la culture, c'est vrai, mais elle demeure ce mystère absolu et profond où l'humain puise en tâtonnant comme un sourd, comme un muet, comme une bête, à la recherche vaine des pourquoi de la souffrance et du bonheur, les deux expériences minuscules et immenses que partagent Zadig et Proust. Mieux qu'aucun écrivain, Proust sait que l'expérience sensible et silencieuse, au sens de « sans mots », s'étire dans la littérature aussi jusqu'à l'angoisse de mort. En exergue à cette dernière digression, je rappelle la conversation, le vertige mortel qui saisit le narrateur à la fin de la conversation avec la grand-mère, quand la demoiselle du téléphone coupe la ligne et que la voix s'abolit. Cette doublure de silence tapisse toute la recherche et la vie même de Proust, jalonnée de ses vacillements et parfois de ces chutes auxquelles vous avez fait allusion, dont rendent compte ses lettres à Reynaldo. Il lui écrit, vous vous en souvenez, qu'il est hanté jusque dans ses rêves par le mutisme et la surdité du petit Edward Seligman, par son existence incomplète, qui, comme une âme captive, n'a pu trouver d'expression dans le monde partagé. Après la lettre au chien de 1911, il revient dans un post-scriptum en 1912 à un fait que Reynaldo a pris pour de l'indifférence vis-à-vis de Zadig. Citation 17, « Adieu, mon cher petit gentil, qui ne comprend pas pourquoi je n'ai pu regarder Zadig et qui a cru que c'était de l'indifférence. Mais pour d'autres choses, tu me comprends et tu sais que ta lettre m'a fait la même chose que deux choses. Un jour où maman est venue me dire « Pardon de te réveiller, mais ton père s'est trouvé mal à l'école. » Et un autre jour plus récent, « Rien ne peut dépasser en horreur les jours déviants où maman, frappée d'aphasie, cherchait à me la dissimuler. » Toujours en 1912, Proust s'effraie d'un petit évanouissement si gentil de Reynaldo qui lui évoque celui de Pascal, quand il ne put convaincre les gens de Port-Royal de ne pas signer le formulaire et qu'il se trouva mal, perdit la parole et la connaissance. La même crainte poursuit Proust lorsque Reynaldo veut se faire mobiliser pour la guerre, tandis que lui, connaissant les syncopes de son ami, voudrait le faire réformer. Le mutisme, le silence interloqué, la terreur d'une voix perdue dans la distance, l'aphasie, l'évanouissement, toute mise en souffrance de la parole humaine, réveille chez l'écrivain la terreur de voir s'effacer l'humain. Le silence de Zadig relaie, on le comprend, cette peur de l'inhumain que Proust littéralement ne peut regarder en face. Pourtant, il ne cesse d'affirmer que l'angoisse de mort, doublure de ce religieux devant quoi s'arrête le fini et tous les arts qui ont pour objet le fini, n'est pas une négation du sens, mais au contraire son berceau, son insistance, car c'est elle qui fait éprouver l'humain en l'éprouvant, justement. Ici, ce sont les signes inintelligibles, qu'adressent au narrateur les trois arbres de Dimenil qui me servent de guide. Le trouble dans le langage, mis en scène, mis en pratique, parodié dans le style Bunch-Nibbles, du gazouillis à la jargonophasie, qui réduisent d'un seul coup l'abîme entre la mort et la vie, entre le vivant parlant et le vivant sentant, pourrait ouvrir à cet événement que la musique, d'une façon, et la littérature d'une autre, cherchent ou parviennent à capter. Si la fraternité entre Zadig et Proust ne peut se faire qu'en deçà du langage, sans langage, elle n'existerait pas. De même, je cite de nouveau l'enseignement de Lévi-Strauss, la musique n'est pas écrite sous la dictée des sons de la nature, mais sans l'organisation naturelle de l'expérience sensible des chants d'oiseaux, des bruits de la terre, des sons du monde, elle ne saurait se construire. Ainsi, ouverte à la métaphore, elle reste pourtant libre des liens représentatifs. Décollée du sens, elle adhère au son, dit Lévi-Strauss. La littérature, elle, s'incarne comme l'humain, être linguistique, dans le son et dans le sens, rivalisant interminablement avec ces mêmes sons et choses et êtres du monde. Quoique le langage précède la musique, ajoute Lévi-Strauss, elle continue de dépendre de lui comme une appartenance privative. Je souligne privative car c'est, je pense, cette privation que cherche en vain à combler la littérature. Et Proust, quant à lui, s'y évertue sans jamais oublier cette radicale privation. J'ai essayé de l'indiquer, sinon de le démontrer. La lettre au chien s'inclut de plein droit dans la vaste théorie du langage de Proust, en ce qu'elle en exhibe l'aporie radicale, en amont et dans ses fins, ou pour le dire très bêtement, comme les bêtes, on peut tout dire, et quelque chose est indicible. Et dans cette dialectique impossible, mais vitale, je pense qu'on peut compter le buchnibulse intérieur de l'écrivain, qui est musicien, la guerre à la langue, dont la stratégie est exposée par Proust dans une fameuse lettre à Madame Strauss, où il parle d'attaquer la langue, qui est la seule façon de la rendre vivante, à quoi j'ajouterais la nécessité d'animaliser, avec un Y à la fin, c'est en faisant ce néologisme, je veux dire, d'analyser grâce à l'animal, ce que fait Proust dans cette lettre à Zadig. Zadig, qui est un impossible à dire, le symptôme de l'impossible à dire, et qui reste effectivement sans réponse et dans le silence. Mais ce silence de Zadig est celui de tout vivant qui se tient sans mots dans le nu de la vie, ce qui arrive aussi à l'humain dans des expériences sensibles hors morale, mais qui fondent la morale et que j'ai rappelé dans le sillage de Proust. Aimer, voir mourir, craindre de voir mourir, désirer, voir mourir, etc. Et c'est toute la recherche. Proust écrit à Zadig pour rappeler à Reynaldo, l'interprète, d'où procède le langage articulé des humains, la littérature des écrivains, le chant des chanteurs, la musique des musiciens. Il ne prétend pas, comme son ami, détenir la compétence d'une herméneutique totale, mais lui, dans le roman de qui les bêtes ne sont pourtant guère à l'honneur, il dessine en revanche dans la lettre à Zadig la poétique d'une modeste herméneutique pratique que même nous, humains, et quoique nous peignons depuis toujours à la formuler ou à la mettre en œuvre avec les bêtes, allégorisées, anthropomorphisées, oedipianisées, qu'elles sont dans cette part du monde toujours plus étroite que nous leur faisons, nous efforcer d'atteindre et d'entendre. En témoigne le post-scriptum de la lettre qui suit celle à Zadig, signée du nom de Bunst, respect à Zadig, l'équivalence intellectuelle. Merci.